Urbaflore. L'émission du Conservatoire botanique national Pyrénées et Midi-Pyrénées. Urbaflore avec Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa.
On va parler aujourd'hui des adaptations des végétaux à la sécheresse, adaptations au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. On va parler du fonctionnement d'une plante, de ses adaptations, donc adaptations génétiques, morphologiques, biologiques, tout ça. Et on commence par une définition de l'adaptation, justement.
Une adaptation, c'est effectivement une modification d'une plante, une réaction d'une plante, à un élément du milieu. Ça peut être la sécheresse, là, dans le cas présent. Ça peut être trop d'eau aussi. Ça peut être un choc. Ça peut être le fait d'être coupée. Voilà. Elle va s'adapter. Elle va réagir de différentes façons par rapport à cette modification du milieu.
Pour augmenter ses chances de survie et de reproduction, c'est le but de la plante.
Tout à fait.
Et la sécheresse?
C'est une longue période dans laquelle il ne pleut pas par rapport à des normes, par rapport à des moyennes en fait, de précipitations qu'on a à la même période dans une région donnée.
Et donc de l'habitude qu'a la plante.
La plante va réagir à cette sécheresse en mettant en place justement un certain nombre de stratégies, de caractéristiques, de combines pour pouvoir s'en sortir.
Qu'on va développer aujourd'hui dans cette émission Urbaflore. Alors, peut-être, peut-être découvrir comment fonctionne une plante. Alors, stève, stomate, évapotranspiration. Non, je ne lis pas un texte. Comment fonctionne une plante, Jérôme?
Alors, il s'agit effectivement de sève, d'évapotranspiration, de stomate. Ce sont effectivement les acteurs et les processus qui interviennent lorsqu'une plante vit, tout simplement, le jour en particulier, pour la plupart des plantes de nos contrées, elles vont s'appuyer sur le soleil. C'est un des moteurs en fait, du processus qui, combiné à la photosynthèse, vont fabriquer de la matière organique. Mais pour fabriquer de la matière organique, il y a besoin d'eau et de dioxyde de carbone. L'eau va arriver par les racines, sous la forme de sève brute. Donc l'eau est aspirée du sol par les racines, va monter dans la tige et va s'évaporer de la feuille par ce qu'on appelle des stomates. Donc c'est des cellules qui sont spécialisées, qui ont la propriété de s'ouvrir ou de se fermer pour laisser passer les gaz en fait. Donc les gaz, c'est l'oxygène, le CO2, mais également l'eau sous forme de vapeur. Donc à un moment donné, la plante, quand il fait très chaud, donc elle va ouvrir ses stomates, l'eau va s'échapper, elle monte donc des racines, va s'échapper dans l'air ambiant, et en même temps, comme les stomates sont ouverts, le dioxyde de carbone va rentrer, et par la photosynthèse, on va avoir tout ce qui est sucre. Mais à un moment donné, il va faire tellement chaud que la plante elle va dire stop, je sacrifie ma photosynthèse pour garder mon eau, pour éviter de me dessécher, et donc elle ferme ses stomates. Voilà, donc le fonctionnement des stomates, il est régulé par la température, par l'ensoleillement, et c'est lui qui va permettre à la plante de maintenir son eau et d'éviter de se dessécher. Mais pour ça, bah, il fabriquera plus de sucre, il fabriquera plus de matière, en fait, il pourra plus grandir. C'est un compromis.
Mais dans les milieux où il fait extrêmement chaud, il y a quand même des plantes qui arrivent à survivre, je pense au désert. La nature a horreur du vide, je ne sais plus qui disait ça.
C'est Aristote qui disait ça. Et effectivement, bon, l'idée qu'il faut avoir derrière cette phrase, cette citation, c'est que on va trouver dans tout un tas de milieux les plus extrêmes de la vie, et les plantes représentent bien, on va dire, ces occupations d'espace divers et variés, extrêmes. Et dans les déserts, mais sans aller trop loin, on va trouver en Midi-Pyrénées, Tarn-et-Garonne en particulier, des milieux comme des éboulis, comme des falaises, comme des coteaux secs, des pelouses sèches, en général calcaires. Lorsqu'on y est dessus à cette saison ou en plein été, on a bien chaud et on se demande comment de la végétation, des plantes arrivent à survivre dans ces conditions-là. Et elles ont développé tout un tas d'adaptations.
elle s'adapte avec des adaptations biologiques, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, les adaptations, il faut aussi se dire, il y a des adaptations instantanées, c'est-à-dire en fonction de la journée, en fonction de la saison, la plante va réagir d'une certaine façon. Mais il y a des adaptations qui sont ancrées depuis des millénaires, en fait, au fur et à mesure que les végétaux se sont succédés, il y a eu des adaptations à certains milieux. En fait, c'est lié à de la concurrence. Les espèces vont s'installer dans des milieux où il y a une moindre concurrence. Et forcément, les milieux tropicaux humides, pour prendre un extrême, vont abriter toute une diversité de végétaux où la concurrence est rude. Mais il peut y avoir des milieux qui sont extrêmement difficiles, où finalement, il y aura très peu de concurrence. Et donc, ça permet à des végétaux de développer des stratégies, des adaptations qui sont très particulières, très caractéristiques, très spécifiques. Et c'est ce qui les rend aussi sensibles à des variations, justement, comme la pluie à un moment où on n'en verrait pas trop, ou justement de la sécheresse à des moments où normalement il devrait faire humide. Donc en fait, voilà, ce sont des végétaux qui sont très spécialisés. Et donc pour en revenir à ta question, Lisa, des adaptations biologiques, effectivement, il y a des espèces qu'on va appeler des térophytes. Ce sont des espèces banalement annuelles, tout simplement, les plus connues, le coquelicot, par exemple, mais il y en a d'autres. Le coquelicot n'étant pas une espèce forcément adaptée à la sécheresse, encore que, c'est une espèce qui va disparaître en été. Tout simplement, les espèces annuelles, térophytes, vont se développer à la bonne saison, au printemps en général, ou à l'automne, fleurir au printemps, et ensuite en été, ben, on ne verra plus rien. Elles vont persister dans le sol sous forme de graines. Il existe d'autres adaptations biologiques, il y a notamment par exemple la chute des feuilles. Il arrive que avant l'automne, en plein été, à cause d'une grosse sécheresse, certains arbres, certaines plantes, perdent leurs feuilles. Alors c'est assez conséquent, c'est assez radical, mais ça permet à la plante voilà, de refaire une nouvelle pousse à l'automne après les premières pluies. On trouve ça après, ça se manifeste par exemple dans quand on étudie l'âge des arbres, les cernes, vous savez les troncs. Lorsqu'on coupe un arbre, on peut compter les cercles et on dit bon ben voilà, il y a 45 cercles, l'arbre il a 45 ans. Et il arrive que certaines années, en fait, il y ait deux cercles qui se forment, comme s'il y avait un deuxième printemps. C'est suite à cette sécheresse et à la chute des feuilles. Alors, ça peut être la sécheresse, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les feuilles tombent, une attaque de prédateurs ou ce genre de choses, font que il y a plus de feuilles. Et donc, l'arbre en produit de nouvelles, comme s'il y avait un deuxième printemps.
À l'automne, voilà. Donc, enfin, ou dès qu'il se met à pleuvoir.
À l'automne, dès que, en général, ça revient à l'automne.
Pour les adaptations biologiques, donc pour les adaptations morphologiques, ils ont encore des cordes à leurs arcs, ces végétaux.
Alors elles sont très très variées, effectivement, les adaptations morphologiques. On peut commencer par parler des feuilles, puisque c'est là où, comme je disais, il y a des stomates et pas des tomates. Il y a la possibilité pour les feuilles de s'enrouler sur elles-mêmes. Par exemple, il y a des graminées qui font ça sur les dunes. Bon, il n'y en a pas ici, hein. Mais il y a une plante qui s'appelle l'Oya, qui est en capacité de se recourber sur elle-même pour créer des espèces de petites poches d'humidité, pour limiter justement l'évaporation, l'évapotranspiration, dont on parlait tout à l'heure. Il y a le développement d'une certaine pilosité. Il y a des feuilles qui sont en général toutes velues, qui permettent également de lutter à la fois contre les UV, les ultraviolets du soleil. Ça fait une espèce de peau, de pellicule supplémentaire. Et en même temps, ça maintient une ambiance un peu fraîche, un peu humide. La couleur des plantes peut jouer aussi, la couleur des feuilles. Il y a des plantes qui développent des organes de réserve, des réserves d'eau. Donc ça peut être des réserves dans les feuilles, comme les sédums ou les orpins. Les plantes grasses, voilà, vont avoir des feuilles qui sont énormes, gorgées d'eau. On peut avoir aussi des tiges qui sont très épaisses. C'est le cas, bon, on n'en trouve pas forcément, ou j'ai pas d'idée en tout cas, sous nos latitudes, mais les cactus, typiquement, ce sont des tiges en fait qui sont gonflées d'eau. Il y a les arbres comme les baobabs aussi, qui sont gorgés d'eau. Ça se passe au niveau des tiges. Si, il y a les rhizomes, qui sont des tiges qui ont des réserves. En fait, les rhizomes, c'est typiquement les iris, par exemple. Ensuite, les feuilles, les tiges, il reste les racines. Les racines sont aussi capables, pour certaines espèces, de mettre en place des réserves, soit des réserves nutritives, soit des réserves d'eau. Les essences aromatiques, comme on les connaît, la lavande, le thym, le romarin, la sauge, elles ont une autre technique. Leur parfum, on va dire, leur essence, va permettre d'abaisser la température à proximité des feuilles et en même temps de créer une espèce de voile protecteur, encore une fois, contre les ultraviolets. Et c'est une façon aussi pour ces plantes-là de résister à la chaleur.
Elles peuvent aussi devenir cireuses.
Ça, c'est une autre adaptation encore, effectivement. Il y a sur la surface de la feuille, qu'on appelle la cuticule, une espèce d'épaisseur de cire. On va trouver ça, par exemple, sur les feuilles du chêne vert, la corroyère aussi. Voilà, c'est simplement, on a l'impression que les feuilles, elles brillent, et c'est une forme de protection aussi contre la chaleur.
Et pour garder de l'eau, rien ne vaut des feuilles. Pour garder ces feuilles, rien ne vaut des épines pour lutter contre les herbivores.
Bien vu. Il y a des plantes qui vont développer d'autres techniques pour éviter là notamment d'être mangées parce qu'elles conservent de l'eau en elles et elles vont attirer un certain nombre d'herbivores qui vont les consommer, hein, que ce soit des mammifères herbivores, hein, tout simplement des vaches, des lapins, ça peut être des chenilles aussi, encore que les chenilles, elles arrivent à passer à travers les épines. C'est aussi une façon de conserver son eau que de développer des piquants, des épines.
Adaptation morphologique, donc on a vu les adaptations biologiques, morphologiques, adaptations génétiques.
Les adaptations génétiques, ce sont des adaptations qui sont étudiées beaucoup plus récemment, parce qu'on se pose beaucoup la question, notamment les forestiers, des forêts de demain. Qu'est-ce qu'il faut planter, ou même dans nos jardins? Qu'est-ce qu'on doit planter? Est-ce qu'on doit planter des espèces méditerranéennes absolument du pourtour méditerranéen qui viennent d'Afrique du Nord, de Grèce, d'Italie ou autre? Bon, chacun a un peu sa façon de voir. C'est vrai qu'au Conservatoire botanique, on garde en tête que les végétaux qu'on importe ou qu'on déplace, on appelle ça de la migration assistée. C'est-à-dire qu'on aide les végétaux à faire une migration qu'ils auraient fait par eux-mêmes. C'est un parti pris. On a eu des expériences par le passé qui ont montré que cette migration assistée n'était pas forcément très bénéfique, dans la mesure où des pins, par exemple, qui venaient du Portugal, ont été implantés dans les Landes au début du XXe siècle. Ils se sont bien développés, hein, température qu'il fallait, les conditions étaient bonnes, et puis il y a eu plusieurs hivers où le froid les a totalement ravagés. Donc vous imaginez des hectares et des hectares de pins du Portugal qui ont disparu d'un coup parce qu'il y a eu un froid, alors que tous les autres pins plus adaptés ont persisté. Donc à la fois dans les plantations, il y a des préconisations au-delà des adaptations à la sécheresse, mais il y a des préconisations de planter pas en monospécifique, mais avec plusieurs espèces. Les arbres peuvent s'aider entre eux, apporter des conditions de fraîcheur, de sol, etc. variées, et puis surtout de maintenir une diversité génétique. Éviter tout ce qui est individus monoclonaux issus d'une même souche sélectionnée parce qu'elle pousse bien dans des conditions données. C'est important d'avoir une diversité génétique des graines. Ça permet aux plantes de s'exprimer différemment en fonction des conditions du milieu. Donc, certaines plantes vont peut-être péricliter, quand d'autres, grâce à la diversité génétique, vont se maintenir et peut-être développer aussi chez les descendants ces mêmes caractéristiques et des adaptations encore plus fortes. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire confiance aussi aux arbres qu'on a sous nos latitudes. Certains ont des capacités encore méconnus. D'autres, certes, sont beaucoup plus spécialisés et vont péricliter parce que le changement climatique qui va vers de la chaleur ou des aléas, en tout cas au niveau des conditions météo, certains vont péricliter quand d'autres vont se maintenir. Et c'est la diversité qui va permettre de faire la différence. Ensuite, les études récentes, là, il y a des études qui datent de 2021 qui ont été menée par l'INRAE dans le cadre d'un programme qui s'appelle Épitré. Le projet Épitré, c'est basé sur l'étude de peupliers et de chênes en particulier. Et ces arbres, en fait, portent en eux un génome et un épigénome parfois différents sur chaque branche qui constitue l'arbre. Donc d'année en année, chaque fois qu'il y a une branche qui pousse, elle sera différente de la précédente et sera encore différente de celle à venir.
L'ADN se modifie à chaque nouvelle pousse.
L'ADN, naturellement, il subit des mutations. Les mutations sont des phénomènes qui sont quand même assez occasionnels. Là, ce dont je parle, c'est un changement d'épigénome. L'épigénome, c'est encore différent du génome. L'épigénome, c'est justement comment on va traduire ce génome. C'est-à-dire comment il va être lu. L'ADN, il faut s'imaginer que c'est une farandole, c'est un code. En fait, c'est une succession de lettres qui s'enchaînent et les lettres par groupe vont donner, un aliment, par exemple. On va partir, l'ADN, c'est une recette de cuisine. Chaque morceau, des petits morceaux d'ADN, vont constituer des ingrédients. Imaginons que nous, on soit des protéines, on va suivre un livre de recettes et simplement qu'il y a des fois, on va s'arrêter, la recette, elle fait, 40 pages et on va choisir de mettre les ingrédients qu'il y a sur la page 1, la page 3, la page 15, etc. Et il arrive parfois qu'en fonction de nos humeurs ou en fonction de la sécheresse, simplement, on va lire des pages qu'on n'a jamais lues auparavant. Et donc, on va établir un nouveau gâteau à partir d'une recette que tout le monde connaît, mais on va pas y mettre les mêmes ingrédients. Et voilà, simplement la sécheresse là va faire que l'ADN va pas être lu de la même façon. Donc l'ADN reste le même, c'est la façon de le lire qui va faire la différence. Donc faut savoir du coup que l'arbre c'est une mosaïque de génome et d'épigénome du tronc jusqu'à ses branches aux extrémités quoi.
Et chaque branche peut avoir un épigénome différent.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est une traduction, on va dire, qui est 100 000 fois plus fréquente que des mutations génétiques. On va avoir des lectures de cet ADN qui sont beaucoup plus fréquentes que la mutation de l'ADN en lui-même.
Donc c'est aussi une façon de lutter contre...
Voilà, donc potentiellement, une branche qui aura été affectée par un changement de conditions environnementales, comme la sécheresse, va générer ces épigénomes qui vont faire que l'année suivante, la branche va produire une tige et des feuilles qui peuvent être plus résistantes que les branches de l'année d'avant. Donc ça, c'est des découvertes, il y a besoin encore d'approfondir les choses, mais c'est super intéressant par rapport à ces adaptations au changement climatique, notamment. Il faut savoir après qu'il y a d'autres études, il y a eu d'autres recherches scientifiques qui ont été faites par des forestiers, notamment, qui ont aussi montré que les arbres, certains arbres en tout cas, ont la capacité de transmettre dans leurs graines ce qu'ils ont appelé une mémoire environnementale à leurs descendants. Donc des arbres qui ont été élevés, puisqu'on est dans le cas de forêts plantées, dans des conditions d'aridité ou d'humidité différentes, vont transmettre à leurs descendants ces adaptations-là. Donc, après, ça reste dans la limite de la génétique de l'arbre. On ne peut pas demander non plus à un arbre qui a une génétique qui est établie depuis des millénaires de changer d'une année sur l'autre. Ce sont des processus qui sont très longs.
Donc, mais quand même.
Oui, mais quand même, ça existe. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais il faut donner aussi, encore une fois, le temps aux plantes de s'adapter. Et ce n'est pas en 5 ans que les choses se font. Bon, après, est-ce que le changement climatique permettra aussi une réponse réaliste et aussi rapide des végétaux? Faut l'espérer.
Urbafleur, une émission ce mois-ci consacrée à l'adaptation des végétaux à la sécheresse. Une émission réalisée par Jérôme Garcia, qui est chargé de conservation au Conservatoire Botanique National de Pyrénées et Midi-Pyrénées. Le mois prochain, dans Urbafleur, réponse à vos questions, questions que vous pouvez envoyer sur redaction.keilus@cfmradio.fr. Vous nous envoyez un petit mail avec vos questions. Jérôme a un mois pour y réfléchir. On se retrouve le mois prochain. Alors je le redis, redaction.keilus@cfmradio.fr. Jérôme, merci beaucoup.
À bientôt.